Radio Okapi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Ce 26 juillet est célébrée la journée mondiale de la protection de l'écosystème de mangroves. Quelles sont exactement les mangroves? Quel rôle jouent-elles dans la protection de la biodiversité et les communautés riveraines? La réponse dans un instant et vous suivrez à la fin de ce journal une interview à long avec l'invité de notre journal. Guéri d'Ebola à seulement un mois, l'incroyable destin d'un bébé devenu orphelin ensemble avec son frère. Bonne nouvelle tout de même, dans ce triste dossier, le gouvernement annonce leur prise en charge ainsi que celle des autres enfants survivants et orphelins de cette épidémie. Encore une fois, bonjour à tous. L'actualité de ces jours nous amène d'abord à Mwanda, dans la province du Congo central. Ce 26 juillet est célébrée la journée mondiale de la protection de l'écosystème des mangroves. Peut-être l'ignorez-vous, mais ces étonnantes forêts poussent là où la terre rencontre la mer, les racines plongées dans l'eau salée. À l'embouchure du fleuve Congo, où ces eaux se jettent dans l'océan Atlantique, se dresse un paysage unique. Des arbres perchés sur de longues racines semblables à des gessaches, formant une forêt à la fois majestueuse et essentielle à l'équilibre de la nature. Bienvenue au parc marin de mangrove de Mwanda, l'un des rares espaces de ce genre en Afrique centrale qui abrite cet écosystème exceptionnel. Mais au fait, qu'est-ce qu'une mangrove et pourquoi sa préservation est-elle si importante? Élément de réponse dans ce reportage d'Alain Rung, raconté par Élise Kavira.
Ce n'est pas une forêt comme les autres. C'est un écosystème unique, une frontière naturelle entre la terre et la mer. En RDC, nous avons la chance d'avoir la seule aire marine protégée du pays pour préserver ce trésor. Ici, les palétuviers, ces arbres rois de la côte, accomplissent un miracle quotidien. Ils flirtent avec le sel, stabilisent le rivage contre l'érosion et purifient l'eau. Les mangroves de Mwanda, c'est la plus grande maternité de la nature. Sous leurs racines entremêlées, cachées des prédateurs, des milliers de petits poissons, des crabes et des crevettes viennent au monde et grandissent. C'est grâce à elles que les pêcheurs locaux peuvent nourrir leurs familles. Et ce n'est pas tout. Ces forêts sont super-héroïnes du climat. Elles stockent jusqu'à 10 fois plus de carbone qu'une forêt terrestre classique. Un véritable poumon vert pour notre planète. Pourtant, ce paradis des biodiversités est en danger. Coupe illégale pour faire du charbon de bois, le makala, urbanisation sauvage, pollution plastique ou menaces liées aux hydrocarbures. Détruire la mangrove, c'est détruire notre propre bouclier contre les tempêtes et vider l'océan de ses poissons. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Parlons de cette histoire aussi bouleversante qu'extraordinaire. Un bébé d'à peine un mois a été guéri de la maladie à virus Ebola au centre de traitement de Mungwalu, situé à près de 85 km au nord de Bunia, en Ituri. À ses côtés, son grand frère, lui aussi rescapé de cette épidémie qui continue de marquer cette province épicentre de la maladie. Mais derrière cette victoire contre le virus, se cache un drame. Les deux enfants ont perdu leurs parents, emportés par Ebola. Une note d'espoir toutefois, le gouvernement annonce leur prise en charge, ainsi que celle des autres enfants survivants et devenus orphelins à la suite de cette épidémie. Une initiative largement saluée par les communautés locales durement éprouvées. Isaac Remoyo Pété sur place suivait son reportage.
L'un de ses enfants n'a qu'un mois. Contaminé par ses parents, tous des décédés d'Ebola, il a survécu grâce à sa prise en charge au centre de traitement d'Ebola de Mungwalu. Il est aujourd'hui confié à une femme également survivante d'Ebola qui assure son allaitement. Lors de sa visite à Mungwalu, la première ministre Judith Suminwa lui a remis son certificat de guérison. Un autre enfant, âgé d'un an et demi et lui aussi devenu orphelin après le décès de ses parents, a quitté le centre de traitement jeudi. Selon les autorités sanitaires, plusieurs autres les enfants de moins de 5 ans se trouvent dans une situation similaire dans les structures de prise en charge de l'épidémie. La ministre des Affaires sociales et des Actions humanitaires, F. Bazaïba, qui accompagnait la première ministre, a demandé que tous ces enfants soient identifiés afin de bénéficier d'une prise en charge globale. Elle précise que le gouvernement a déjà mis en place une crèche à Bunia pour accueillir et accompagner les enfants survivants et orphelins d'Ebola.
Nous prenons, il ne faut pas qu'on perde l'enfant. Il y a des mères nourricières, il y a du lait, il y a tout, c'est vraiment
ma prière.
Selon les dernières données disponibles, plus d'un millier de personnes ont déjà succombé à l'épidémie, laissant derrière elles de nombreux enfants orphelins. De retour de Mungwalu, Isakare Moyope, Radio Kapi.
Après l'Ituri, direction Beni au Nord Kivu, avec une nouvelle encourageante dans la lutte contre Ebola. Un militaire des forces armées de la RDC a quitté vendredi le centre de traitement d'Ebola à Beni après une dizaine de jours de soins. Guéri de la maladie, il devient désormais un témoin de la riposte. Le rescapé appelle la population à prendre Ebola au sérieux et à consulter sans tarder en cas de symptômes afin d'augmenter les chances de guérison. De leur côté, les équipes de riposte rappellent l'importance du respect des mesures de prévention, notamment les lavages réguliers des mains et du signalement rapide de tout cas suspect. La lutte contre Ebola se poursuit également dans les structures sanitaires privées de Butembo, Moussienene et Katwa au Nord Kivu. Les responsables de ces établissements ont été appelés à respecter scrupuleusement les normes qui régissent les secteurs de la santé sous peine de sanctions. Cette mise en garde intervient dans un contexte préoccupant marqué par une recrudescence des décès enregistrés au sein des communautés. Selon les autorités sanitaires provinciales, l'épidémie a déjà fait près de 172 morts pour quelques 275 cas confirmés. La coordonnatrice provinciale de la santé, Prisca Luanda Kamala, insiste sur la nécessité pour chaque structure de jouer pleinement son rôle dans la riposte. Nous l'écoutons dans cet extrait recueilli par Martial Papimukeba.
Nous attendons de vous ce qui suit, la remontée des alertes. Deuxième chose, la collaboration étroite avec les chefs de section et des piliers, en facilitant le travail aux équipes déployées sur terrain. La non-retenue des malades présentant des signes de l'ARVE dans les établissements de soins de santé, car en les gardant, il y a risque qu'ils contaminent les autres malades, les prestataires, les membres de leur famille et leurs proches. 4. Après chaque décès, l'obligation d'alerter l'équipe d'enterrement digne et sécurisé, et enfin la conformité aux normes et directives régissant les secteurs de la santé, de peur d'exposer vos formations sanitaires à des sanctions.
Autre sujet à présent, les cris d'alarme lancés par un député provincial d'Uvira face aux conditions de vie difficiles de plusieurs réfugiés congolais installés dans les camps de Busuma au Burundi. Bissimwa Sindéri appelle le gouvernement congolais à s'impliquer davantage pour garantir une prise en charge digne de ses compatriotes. Les réfugiés dénoncent notamment l'insuffisance de l'aide alimentaire, le manque d'accès aux soins de santé, la précarité des abris ainsi que la déscolarisation de leurs enfants. Excédés par cette situation, certains ont récemment manifesté pour réclamer leur rapatriement en République démocratique du Congo. Face à ces préoccupations, l'élu d'Uvira estime qu'il devient urgent pour les autorités congolaises de mettre en place des mesures concrètes afin d'améliorer les conditions de vie de leurs citoyens. Bissimwa Sindéri est au micro de Ronéline Tibonera.
Ses compatriotes congolais estiment que les opérations de rapatriement vers la ville d'Uvira et ses environs sont exécutées avec une lenteur administrative excessive et ne concernent qu'un nombre très limité de bénéficiaires à chaque convoi, alors que plusieurs milliers de personnes réfugiées aux différents camps du Burundi attendent depuis plusieurs mois, n'est-ce pas, cette dynamique d'opération de retour vers le pays d'origine. Il est important aussi de retenir que les rapatriés spontanés qui sont dans la ville d'Uvira, jusqu'à présent, ils demeurent sans aucune assistance, ni du gouvernement, moins encore de partenaires.
Économie à présent, la première édition de la Conférence nationale sur les hydrocarbures s'est achevée vendredi à Lubumbashi après deux jours d'échanges consacrés aux défis et aux perspectives du secteur pétrolier en République démocratique du Congo. Organisée par la Fédération des entreprises du Congo en partenariat avec le ministère des hydrocarbures, ces assises ont réuni des membres du gouvernement central, des autorités provinciales, des opérateurs pétroliers, des entreprises minières, des représentants du secteur privé ainsi que des experts affaires du domaine. Au cœur des discussions, le rôle du pétrole dans le développement économique du pays autour du thème « Le pétrole, véritable colonne vertébrale de l'économie de la République démocratique du Congo ». Les temps forts et les principales recommandations de cette conférence avec Paul Monanga.
Procédant à la clôture des travaux au nom du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, le directeur de son cabinet, Albert Kasongo Mukonzo, a réaffirmé que la sécurisation de l'approvisionnement en produits pétroliers constitue une priorité stratégique pour le gouvernement au regard de son impact sur l'économie nationale et particulièrement sur les secteurs miniers. Il a également rappelé que le gouvernement poursuit les réformes visant à renforcer la gouvernance du secteur pétrolier, à améliorer la stabilité du marché, à intensifier la lutte contre la fraude et à garantir un approvisionnement régulier et durable en produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national. Albert Kasongo Mukonzo.
La configuration structurelle de notre secteur pétrolier démontre clairement le poids et le rôle capital de la zone sud. Les produits pétroliers s'affirment davantage comme des intrants économiques de premier ordre, soutenant les fers de lance de l'économie congolaise, notamment le secteur minier.
De son côté, le président provincial de la FECO Katanga, Patrick Mouland-Kabey, a invité les participants à privilégier un dialogue constructif afin de dégager des recommandations pragmatiques susceptibles d'améliorer durablement le fonctionnement du secteur dans un esprit de collaboration entre les pouvoirs publics, les opérateurs économiques et l'ensemble des parties prenantes. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Vive les vacances, mais attention! Les habitudes alimentaires des enfants pendant cette période préoccupent les professionnels de santé. À Matadi, de nombreux enfants profitent des vacances scolaires pour grignoter à longueur de journée, souvent pour combler la nuit. Face à cette situation, les spécialistes de la santé recommandent aux parents de privilégier les fruits dans l'alimentation de leurs enfants en raison de leurs nombreux bienfaits pour la santé. Que dire de plus à ce sujet, Élise Kavira?
Sur le terrain, cette recommandation se heurte à une réalité économique difficile. Plusieurs parents affirment que le prix des fruits sur le marché est devenu trop élevé, ce qui ne permet pas d'en acheter en quantité suffisante pour leurs enfants.
On veut bien acheter les fruits pour nos enfants, mais est-ce que vous voyez les prix? Pour nous qui avons des grandes familles, c'est vraiment compliqué.
Une réalité que confirment également plusieurs vendeurs et vendeuses des fruits. Derrière son étalage d'oranges, de bananes et d'avocats, cette commerçante partage ses observations.
En ce moment, c'est la saison des oranges. Tout le monde en achète. Mais comme pour d'autres fruits, les prix ont augmenté. Il n'y a pas beaucoup d'achats. Les bananes, les avocats sont devenus chers. Acheter et consommer ces fruits régulièrement n'est pas donné à tout le monde.
Ce n'est pas tout le monde.
Malgré le coût élevé des fruits, le docteur Georges Baka, directeur médical adjoint de l'hôpital de référence de Kinkanda, lance l'alerte.
Les fruits apportent d'abord des vitamines essentielles, il y a des éléments minéraux, il y a des fibres alimentaires, mais également les antioxydants qui sont extrêmement importante pour la croissance des enfants. Alors nous devons veiller parce que le premier traitement qu'on administre à une personne, c'est l'alimentation qu'on lui donne.
Un appel lancé aux parents à promouvoir des bonnes habitudes alimentaires et l'activité physique chez les enfants afin de les protéger contre plusieurs maladies dont la constipation, le diabète et l'obésité. Matadi, Elis Kavira, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa à présent où une réalité préoccupe de nombreux amateurs de sport. Les terrains de football des quartiers disparaissent progressivement sous la pression de l'urbanisation et des nouvelles constructions. Mais au cœur de la commune de Ngiringiri, sur l'avenue Chaba, un terrain continue de résister au temps et aux mutations de la ville, le terrain Bondo. Véritable haut lieu du football populaire, il demeure un espace de rencontre, de passion et de convivialité pour les jeunes. En cette saison sèche, il retrouve toute son effervescence avec son traditionnel tournoi intercommunal, une compétition qui réunit des équipes venues de plusieurs communes du district de la Founa. Immersion dans cette ambiance festive et sportive avec Ella Chembalou, suivez son reportage.
Sifflet de l'arbitre, clameur des supporters, encouragement des entraîneurs. À Bondo, chaque match se joue dans une atmosphère électrique. Autour du terrain, les habitants vibrent au rythme des actions. Ici, pendant 90 minutes, les frontières entre les quartiers s'effacent et le football devient un langage commun.
Le tournoi de proximité, pour un amoureux du football comme moi, c'est un plaisir pur du jeu. Loin du football business, loin on ne voit pas de professionnels comme Cristiano Messi. Non, non. Là, c'est pratiqué avec le moyen du bord sur les terrains de quartier.
Les football dans sa version la plus authentique. Un sport des passions, des proximités et des partages. Mais derrière l'ambiance festive, ces compétitions jouent aussi un rôle essentiel dans la détection des talents.
Ce sont vraiment des activités très fédérales pour des jeunes. Selon les calendriers sportifs, en ce moment que les joueurs sont en vacances, donc le recruteur profite pour sillonner différents terrains de football des quartiers où se déroulent ces événements, histoire de dénicher certains talents qui ne sont pas sous le projecteur.
Alors que les espaces sportifs de proximité s'y raréfient à Kinshasa, les terrains Bondo continuent de résister au temps et à l'urbanisation. Un bastion du football populaire où, chaque saison, se racontent encore des histoires de passion, d'espoir et des rêves.
Actualité internationale.
Au Sénégal, Kirai, les patriotes républicains, c'est le nom de la nouvelle formation politique annoncée par le président de la République du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye va tourner la page PASTEF, les patriotes, dirigé par son ancien camarade et ex-premier ministre Ousmane Sonko. Kirai signifie protection à Wolof et le président Diomaye Faye veut en faire un sacerdoce dans toutes ses actions futures.
L'invité.
À l'occasion de la Journée mondiale de la préservation de l'écosystème des mangroves, célébrée ce 26 juillet, nous nous intéressons à ces écosystèmes uniques, souvent méconnus mais pourtant essentiels à l'équilibre environnemental. Quelles sont exactement les mangroves ? Quels sont exactement les mangroves ? Quel rôle jouent-elles dans la protection de la biodiversité et des communautés riveraines ? Et quelles pourraient être les conséquences de leur disparition ? Des questions auxquelles répond Maître Timothée Moukeng, expert en environnement et responsable de la structure Socitec, dans un entretien accordé à Alain Irung-Mouchinj.
Maître Timothée Moukeng, bonjour.
Bonjour, monsieur Alain Irung.
Vous êtes expert en environnement. De manière vraiment simple, dites-nous, c'est quoi la mangrove ou les mangroves?
Voilà, ok. Donc, de façon simple, la mangrove, c'est un écosystème côtier, marin, des zones tropicales qui, majoritairement, est composé des palétuviers. Maintenant, scientifiquement, un peu plus complexe, il y a plusieurs espèces, mais c'est un écosystème côtier, marin, des zones tropicales et autour de laquelle gravite une grande biodiversité, que ce soit en faune ou en flore, et surtout dont dépend beaucoup la survie humaine en termes de qualité de l'air, des questions d'adaptation au changement climatique, des protections de contre l'érosion côtière. Et même la faune marine, notamment, même l'accès aux ressources qui sont le poisson, et bon, vraiment donc un certain nombre de bénéfices, voilà, de bénéfices comme ça, de comme on dit en compte en termes techniques des services environnementaux, nous sont fournis par la mangrove en fait. Voilà.
Alors. Pourquoi on ne trouve la mangrove qu'ici à Moanda, partout, hein, en RDC, la RDC qui est un pays riche en biodiversité, pourquoi on ne trouve notamment la mangrove ou les mangroves qu'ici à Moanda, au Congo central, notamment à côté de l'océan?
Alors, bon, donc je vais répondre de façon basique. Déjà par la constitution. La constitution hydrologique et même voilà, il y a la présence des deux grands cours d'eau à la rencontre justement du fleuve et de l'océan, c'est la particularité. Donc c'est la Moanda, c'est la seule zone de la RDC qui est en contact avec l'océan et même pratiquement déversoir des eaux du fleuve dans l'océan à cette rencontre là et comme vous voyez ces deux grands cours d'eau assez particulier autour desquels il y a autant de phénomènes, donc la spécifique, cette flore spécifique aussi s'y trouve dans cette particularité. Donc la position géographique de Moanda justifie aussi qu'il y ait cette biodiversité exceptionnelle pour laquelle nous nous organisons justement dans la protection.
Et donc, en termes simples, on ne trouve des mangroves que là où il y a la rencontre entre les eaux salées de l'océan et les eaux du fleuve.
En d'autres termes, voilà, nous pouvons le dire comme ça, les eaux saumâtres, comme on dit dans le langage courant, c'est cela, nous pouvons le dire.
Alors nous avons visité Mwanda, nous sommes allés même à travers une randonnée dans le parc marin des mangroves, mais on se rend compte que la mangrove est menacée, cet écosystème est menacé. Qu'est-ce que cela vous dit en tant que société civile et quelles pourraient en être les conséquences?
Alors effectivement, la mangrove, du reste, comme la mangrove, le parc marin des mangroves, du reste, comme toutes les autres aires protégées, connaissent énormément de contraintes de diverses sources. Il y a surtout les activités anthropiques, les activités humaines, et principalement la aujourd'hui, voilà, il y a cette urbanisation. Comme vous avez vu, il y a l'urbanisation, il y a les activités de l'homme. C'est vrai, il y a les activités de l'homme, par exemple les constructions, voilà, les
projets. L'exploitation pétrolière.
L'exploitation pétrolière aussi, voilà, l'exploitation pétrolière, l'urbanisation, mais aussi surtout cette urbanisation sauvage, un peu qui va au-delà. Mais il faut dire qu'il y a des infrastructures qui auront forcément un impact sur la protection de la mangrove. C'est d'ailleurs pourquoi la loi a prévu qu'il y ait avant, préalablement, les études d'impact environnementaux et sociaux, qui est justement un certain nombre des mécanismes que la loi de 2011 sur la protection de l'environnement et d'autres lois connexes ont prévu, des mécanismes justement de gestion environnementale. C'est cela.
Maître Timothée Moukeng, je vous remercie.
Je vous en prie, monsieur Alayo.
C'était notre invité, Maître Timothée Moukeng, expert en environnement et responsable de la structure Socitech, dans un entretien accordé à Alain Irungumushinge. Voilà qui boucle la boucle de ce journal préparé pour vous par Jean-Désiré Kanyama et Lévin Mbouinga. La mise en onde était assurée par Alain Goy. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.